Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Le dirigeant à l'épreuve de l'opinion. Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Un éclairage dont l'actualité ne peut échapper à personne. Je reçois pour en parler Jean-Pierre Baudouin, dont l'ouvrage « Le dirigeant à l'épreuve de l'opinion, 10 principes de communication à l'usage de ceux qui nous dirigent et de leur entourage » paru chez Personne, arrive à point nommé. Jean-Pierre Baudouin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté aussi spontanément le principe de cette rencontre. En effet, le duo dirigeant-opinion est absolument fascinant. La démocratie d'opinion avance à grands pas, manifestation contemporaine d'une autre forme de démagogie pour les uns, heureuse expression pour les autres des nouvelles responsabilités de la société civile. Cette avancée s'accompagne de dommages collatéraux. De facto, l'opinion rentre de plus en plus régulièrement en émoi, pesant à la fois sur les orientations des politiques comme sur l'ensemble des acteurs de l'économie. Le CPE en reste la douloureuse illustration. Évidemment, l'actualité ne manque pas de livrer son lot quotidien de poils à gratter et nos dirigeants, par leur comportement visible, souvent inconscient, y prennent une part active. Par exemple, l'annonce récente d'une progression de 40% des rémunérations des grands patrons français en 2007, supérieure à la moyenne européenne, vient télescoper les préoccupations de nombre de ménages nationaux aux prises avec leur pouvoir d'achat. Nul doute du caractère remarquable de la contribution de nos dirigeants. Après tout, c'est le marché qui dique le niveau de leur rétribution. Mais peut-on croire, pour autant, que cette situation paradoxale résiste à l'épreuve de l'opinion ? Jean-Pierre Baudouin, vous êtes spécialisé dans le management des stratégies d'opinion. Vous rappelez de façon malicieuse que l'opinion, souvent insaisissable et tout autant courtisée, s'agissant par exemple de plébisciter une stratégie ou une image, que redoutée lorsque la responsabilité personnelle est publiquement mise en cause. Et vous inspirez à la fois de votre expérience, mais aussi des travaux d'experts face à une opinion qui a toujours raison, et un monde où tout ce qui est confidentiel est destiné à devenir public. Vous montrez, cher Jean-Pierre Baudouin, qu'un dirigeant peut devenir fusible, victime de sa communication mal maîtrisée. Vous ouvrez des pistes pour mieux gérer et mieux anticiper ces situations de crise. Et vous explorez le champ de l'éthique et de la morale, transparence, loyauté, exercice de l'autorité, domaine que vous restituez sous l'éclairage de la censure démocratique fondée sur la surabondance, l'excès et la saturation d'informations. Nous allons donc revenir sur l'ensemble de ces aspects du sujet. Alors, je rappelle, avant de vous poser cette première question, que vous êtes coprésident du groupe IE, que vous êtes spécialisé dans le management des stratégies d'opinion et vous êtes par ailleurs professeur au CELSA et auteur de très nombreux ouvrages sur lesquels peut-être vous nous direz quelques mots. Alors, première question, cette pression de l'opinion sur les dirigeants est-elle récente et est-ce qu'on peut en faire un lien avec cette tendance à la démocratie d'opinion?
Merci d'abord, parce qu'à la limite, alors les auditeurs ne voient pas, mais vous me faites rougir et pourraient presque sortir du studio et arrêter là, et en rester là. Mais c'est un concert d'éloges peut-être un peu excessif pour un ouvrage qui, en effet, résulte de l'expérience et de l'observation. Alors, l'expérience et l'observation qui nous pointent bien dans la direction de votre première question à l'instant. Est-ce que c'est récent et est-ce qu'on est irrémédiablement dans cette démocratie d'opinion? Alors, récent, non. Il y a une tirade du vieil Horace chez Corneille qui dit ça déjà. Et par ailleurs, on trouve Jacques Le Goff, l'historien, pointe pour sa part le premier épisode d'opinion publique mettant en cause des dirigeants quand une certaine opinion a mis en cause Blanche de Castille comme étant une mère abusive pour son fils Louis IX.
D'accord, bien. Mais les médias à l'époque étaient un peu moins présents.
Voilà, les médias étaient un tout petit peu moins présents. Et bien entendu, le contexte de l'opinion était très différent. Alors, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on a vu évoluer au fil des dernières décennies? Deux choses. Un, le niveau de la pression, en effet. Il est clair qu'aujourd'hui, le nombre d'acteurs susceptibles d'activer de l'opinion pour se faire entendre de dirigeants et infléchir des décisions ou tenter de le faire est très grand. Et que le nombre d'acteurs qui, dans l'opinion, se considèrent compétents pour juger l'action de dirigeants s'est multiplié. Ça, c'est un premier élément. Élévation du niveau d'éducation, donc élévation du nombre d'acteurs qui se considèrent capables de juger. Deuxièmement, diversification des thèmes sur lesquels le dirigeant est attendu. C'est-à-dire qu'un dirigeant, il dirige une instance, quelque chose. Alors, mes exemples sont plutôt empruntés au monde de l'entreprise qu'autre chose. Mais enfin, un dirigeant, il est là pour diriger une instance. Bien. Simplement, les instances aujourd'hui, et notamment les entreprises, sont attendues sur des champs extraordinairement divers et de plus en plus divers. Citoyen, sociétal, environnemental, mais aussi, bien entendu,
résultats. Donc là, vous parlez de l'extension du champ de responsabilité des dirigeants.
Exactement, tout à fait. Et ce sont autant d'acteurs, de catégories d'acteurs, qui sont susceptibles de prendre la parole, éventuellement de façon contradictoire.
D'accord.
Et c'est la difficulté du dirigeant.
Alors, vous dites, justement, restons peut-être sur cette question. En page 4 et 5 de votre ouvrage, vous dites... L'opinion a des principes, les dirigeants ont des ambitions. Cela ne signifie pas que l'opinion ne puisse être traversée par des ambitions, ni que les dirigeants ne puissent être animés par des principes. Mais de fait, l'opinion est organisée avant tout autour de principes et les dirigeants sont avant tout mus par des ambitions.
En effet, c'est pour moi, d'une certaine façon, le point de départ de cet exercice d'écriture, finalement. Deux choses dans ma pratique quotidienne, finalement. D'une part, le constat de ce que les dirigeants ou des dirigeants, un nombre croissant de dirigeants, sont interpellés de façon de plus en plus fréquente par l'opinion, c'est ce que nous disions il y a un instant. Mais d'autre part, la recherche de la raison pour laquelle ce phénomène s'exprime. Or, ce qu'il me semble, c'est que un dirigeant doit avoir une ambition. Un dirigeant sans ambition se disqualifie rapidement, donc il doit avoir une ambition, une ambition explicite, ou plusieurs ambitions explicites. Bien. L'opinion, elle, juge au nom de principes, et des principes qui ne sont pas nécessairement dans le champ professionnel du dirigeant. C'est-à-dire que je peux juger avec des principes moraux, éthiques, sociaux, un dirigeant économique, sportif ou autre. Donc il y a une différence dans les champs de l'ambition du dirigeant et les champs des principes de l'opinion. C'est une des difficultés qu'on rencontre.
Une approche pascalienne, ça. C'est la théorie
si
des
vous
ordres.
Voulez, mais ça vous me flattez une nouvelle fois. Enfin, mon ambition
si,
ne va
si,
pas
c'est
jusque-là.
C'est tout à fait ça. C'est des ordres différents.
Oui, oui. Mais vous avez
des ordres différents.
Oui, tout à fait, absolument. Alors, ce sur quoi je mettrais un bémol quand même dans l'utilisation des termes, je ne crois pas, et je le relève très brièvement, mais je pense qu'il faut quand même le souligner, je me méfie du terme démocratie d'opinion, si vous voulez. Parce que démocratie, ça veut dire quelque chose, et opinion, alors tout ça relève d'une population, d'un peuple qui, etc., bien entendu. Pour autant, je pense qu'il est important que les dirigeants continuent d'exprimer des ambitions et ne soient pas simplement les jouets ou les objets ou les outils dans la main d'une opinion qui déciderait. En revanche, ce qu'on observe, c'est plutôt une sorte d'opiniocratie, si vous voulez, c'est-à-dire une capacité dans l'opinion à exprimer une vision du monde qui va plus ou moins cristalliser à un moment et peser plus ou moins lourd. Mais ça ne fait pas une démocratie d'opinion. Ça fait un système d'expression de la manière dont la société est organisée, mais pas nécessairement une structure institutionnelle de pouvoir.
De la démocratie, en quelque sorte.
Oui.
D'accord, tout à fait. Vous dites d'ailleurs en page 11 de votre ouvrage, « Un dirigeant est celui qui, aux yeux de l'opinion, est investi d'une responsabilité. C'est le critère de la responsabilité qui vaut plutôt que celui du pouvoir. C'est sur ce critère de la responsabilité que se séparent les catégories dirigeants et leaders d'opinion. »
Oui. Alors ça, c'est un autre phénomène qui, encore une fois, est issu de la pratique professionnelle. Il ne faut pas... Les mots disent ce qu'ils ont à dire.
Tout à fait.
Bien. Alors, il faut les prendre pour ce qu'ils disent et ne pas se méprendre sur ce qu'ils ne disent pas. Un dirigeant dirige. Et il est là, en effet, pour diriger non pas l'opinion, mais il est là d'abord pour diriger l'instance dont il a la charge, quelle qu'elle soit. Un leader d'opinion peut être quelqu'un qui emmène avec lui toutes sortes de populations qui vont partager son avis. Très bien. Mais ça ne fait pas de lui nécessairement un dirigeant. C'est-à-dire que je peux être, à titre individuel, leader d'opinion parce que je dis une chose à quoi des gens vont se rallier.
mais ça ne me donne aucune responsabilité institutionnelle. Okay. Donc le dirigeant, aujourd'hui, a l'obligation d'être un leader d'opinion, parce qu'il faut bien qu'il emmène les gens qui sont dans l'institution qu'il dirige, mais le leader d'opinion n'est pas nécessairement un dirigeant. Et ça fait une différence importante, de responsabilité en tout cas.
Oui, et c'est là où il y a probablement de grandes confusions entretenues dans les médias. Est-ce que vous partagez ce sentiment avec une démultiplication auprès, comme on dit, du grand public?
Oui, plusieurs confusions même. Certainement la confusion entre ce qu'est un dirigeant et ce qu'est un leader d'opinion. On voit bien que dans certains cas, des personnalités dont la parole a pu avoir une influence sur l'opinion se révèlent incapables quand des responsabilités leur sont confiées. Or, l'opinion se trompe peu sur ce terrain-là. L'opinion assigne des responsabilités à des personnes et disqualifie assez vite les personnes qui n'ont pas la compétence pour être dirigeants. Alors, il y a une autre confusion des genres ou confusion des termes qui me semble également importante dans cet espace public des médias, et pas seulement chez lui d'ailleurs, c'est la confusion entre experts et militants. Je suis frappé de voir que les leaders d'opinion, qu'on présente souvent comme des experts, sont en fait assez fréquemment des militants d'une cause.
Des populistes.
Alors, des populistes ou de toutes sortes d'autres choses. Mais, par exemple, peut-on imaginer qu'un expert sur des questions d'environnement soit en même temps militant dans une organisation résolument environnementaliste? Est-ce qu'il a encore l'indépendance de jugement sur les questions qui lui sont soumises? Or, on présente beaucoup de militants comme des experts, et ça me semble également propre à entretenir des confusions. Oui,
donc l'opinion, vous disiez tout à l'heure, a toujours raison. Tout ce qui est confidentiel est-il véritablement destiné à devenir public? Et faut-il résister d'une façon ou d'une autre
au
combat d'arrière-garde le plus tôt possible à ces évolutions, un peu et surtout pas à la manière des conducteurs de diligence qui se mettaient en travers des rails de locomotive. On sait comment l'histoire s'est terminée.
Oui, bien entendu. Oui. Encore que, oui, bien sûr.
On pourrait dire des choses là-dessus.
Oui, mais peu importe. Bref, c'est pas l'objet.
C'est pas l'objet.
Mais néanmoins, alors d'abord, l'opinion a toujours raison. Évidemment, c'est une phrase à l'emporte-pièce qui est faite pour être retenue. Je constate que ça marche puisque vous la citez, donc tout va bien.
Avec un peu de provocation.
Avec un peu de provocation, mais elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Alors l'opinion considère toujours qu'elle a raison. Et l'opinion a toujours raison parce qu'elle considère toujours qu'elle a raison. Jusqu'à ce qu'on lui explique qu'elle a tort. La difficulté, c'est que...
Mais qui peut expliquer qu'elle a tort?
Alors c'est une question de patience, mais les acteurs susceptibles de faire évoluer l'opinion dans ses convictions sont assez nombreux. La difficulté, c'est que les dirigeants sont assez rarement patients. Et que quand un dirigeant observe sur un sujet où il est compétent, que l'opinion commet une erreur d'appréciation, de jugement, de connaissance ou de quoi que ce soit, il a tendance à considérer que l'opinion est stupide. Donc que l'opinion se trompe. Ça n'est pas la meilleure attitude pour arriver à ses fins. Il faut accompagner l'opinion dans ses évolutions et la faire graduellement changer d'avis pour les bonnes raisons. Vous me direz qu'on est à la limite de la manipulation. Bien sûr, on peut tuer quelqu'un avec un marteau aussi bien qu'enfoncer un clou. Chaque chose peut servir à deux choses.
Oui.
Mais n'empêche que l'opinion a toujours raison, c'est dans ce sens-là. Il ne faut pas partir du postulat que l'opinion se trompe et qu'elle est stupide. S'il y a une erreur dans l'opinion, il faut la corriger. Alors sur l'autre versant qui est tout ce qui est confidentiel et destiné à devenir public, alors ça c'est un constat, on ne peut pas aujourd'hui fonder une communication quelle qu'elle soit sur l'espoir qu'un secret va le rester. Donc, espérer que ce qu'on voudrait être confidentiel va rester confidentiel est totalement illusoire. On ne peut pas partir de ce principe. Chaque fois qu'on pose un acte ou qu'on prépare un document ou qu'on formule une pensée ou quoi que ce soit, chaque fois qu'on lâche une parole même aujourd'hui, les épisodes récents de saisie de réactions spontanées aux moyens de téléphones mobiles capables d'enregistrer de la vidéo qui se retrouve dans l'instant même sur Internet, c'est évidemment la règle du jeu aujourd'hui. Donc on est constamment, quand on est un dirigeant, sous le regard de l'opinion. Il faut se mettre devant cette réalité.
Ce que vous dites à la page 26, la polémique tend toujours à encercler la confiance. Elle trouve toujours son origine dans des faits critiqués pour leur justification, donc pour la compétence du management, cherchant ainsi d'abord à entamer la crédibilité de celui-ci. Et vous citez un peu plus loin trois exemples en page 27 de votre document. Le premier exemple concerne Arthur Andersen et l'affaire Enron. le second Google en Chine en 2006, et enfin le troisième qui est encore plus proche de nous, l'éviction d'Antoine Zacharias de la présidence de Vinci en 2006. D'ailleurs, un épisode qui n'est pas complètement fini, si j'ai bien compris l'actualité récente. Peut-être un commentaire sur ces trois oui, exemples précis.
Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, en très bref, sur cette question de la confiance. Alors, les 10 principes s'ouvrent avec la confiance. Le premier des principes énoncés est celui de la confiance, le dernier, celui de la loyauté.
Oui.
Bon. Première remarque, ce sont deux principes qui fonctionnent à double sens, comme la plupart des autres 8 d'ailleurs. Le dirigeant a raison de chercher à obtenir la confiance des gens qu'il dirige, c'est indispensable, mais les gens qu'un dirigeant dirige ont absolument besoin de sentir que le dirigeant leur fait confiance aussi. Donc il faut que ça marche dans les deux sens. Alors cette question de la confiance, ben, on en voit l'importance dans les trois affaires que vous signaliez et que j'utilise en effet comme exemple. L'affaire Enron, quel est le métier d'Arthur Andersen, commissaire aux comptes, avant sa disparition, puisque Arthur Andersen est mort de cet épisode. Bien, le métier d'Arthur Andersen, c'était de vendre de la confiance dans les comptes certifiés.
Exact.
Si la signature d'Arthur Andersen était là, c'est que les comptes étaient bons. Donc que l'investisseur pouvait avoir confiance dans les comptes qui lui étaient proposés.
Un peu comme les agences de notation aujourd'hui.
Alors oui, ce n'est pas tout à fait le même genre d'engagement, parce que le commissaire aux comptes, il engage sa signature véritablement. Ce que ne fait pas tout de même une agence de notation.
Non, elle donne un avis.
Mais à partir du moment où il est apparu et où il a été avéré que les comptes étaient faux et que le soupçon a existé de ce que les comptes avaient été sciemment faux, que reste-t-il de la confiance ? Alors, quand on est dans une entreprise dont le fonds de commerce est la confiance, il est clair qu'on meurt de ce soupçon.
Tout à fait.
Et c'est ce qui s'est produit.
Objective, la confiance est perdue.
Voilà. Et c'est ce qui s'est produit. Alors, sur Google en Chine, on
connaît moins cet exemple, oui.
Alors, Google en Chine, Google, excellente entreprise, constate que la Chine s'ouvre à l'Internet et qu'il y a un certain nombre de centaines de millions d'internautes potentiels en Chine à qui Google peut apporter son service. Bien. Un des principes fondamentaux de l'entreprise Google depuis sa fondation, c'est la liberté de mouvement de l'internaute que Google permet, facilite finalement. Bien. Cette question de la liberté de mouvement rencontre des réticences du gouvernement chinois qui demande à Google de brider la liberté de mouvement des internautes chinois. Donc de brider la capacité des internautes chinois qui se serviraient de ce moteur de recherche d'aller absolument où ils veulent. Google accepte. L'émotion se fait jour, évidemment pas en Chine, l'émotion se fait jour dans le pays d'origine de Google, aux États-Unis, pour qui la valeur de liberté est une valeur absolument fondamentale. Et bien entendu, la critique vient immédiatement derrière. Et la critique est acerbe et la critique est assez rapidement polémique. Et bien entendu, les dirigeants de Google se font interpeller sur leur fidélité à leurs valeurs et sur le respect d'une éthique qui est celle justement de la liberté qu'ils étaient supposés promouvoir et qui était supposé être un de leurs éléments fondateurs. Les dirigeants de Google ont reconnu, chemin faisant, y compris juste dans la foulée de cet épisode au Forum économique mondial qui a suivi, que cet impair, d'une certaine façon, avait nui non seulement à la réputation et à l'image de Google, mais à sa recevabilité par des partenaires dans l'exercice de son activité économique. Donc on voit qu'il y a un impact. Quand ça a eu lieu, ça a eu lieu. On ne peut pas effacer l'histoire.
Tout à fait.
Donc il y a aujourd'hui dans l'histoire de Google cet épisode-là.
Plus près de nous, donc, l'éviction de Zacharias de la présidence de Vinci.
Voilà.
Alors, c'était quand même assez extraordinaire parce que là, c'était en plus dans une situation très paradoxale puisque l'entreprise était
florissante. Tout à fait. Excellent dirigeant.
Voilà,
excellent dirigeant.
Tout à fait.
Et unanimement reconnu comme excellent dirigeant. Et puis, butant sur un jugement, encore une fois, sur un système de valeurs, trouvant que la demande du président Zacharias d'obtenir une prime de plus, en quelques millions d'euros quand même, alors qu'il en avait déjà... quelques millions. La prime de plus, mais ça a été jugé excessif. Et il a fallu, pour que la confiance dans l'entreprise soit maintenue, que l'entreprise se sépare de son dirigeant. Donc là, on voit bien que ce sont de ces moments où, entre la personne morale de l'entreprise et la personne physique du dirigeant, il y a un moment où la séparation devient nécessaire pour protéger ce qui, dans la durée, est quand même essentiel, qui est la confiance dans l'entreprise plutôt que dans la personne du dirigeant. Oui. Il faut que l'entreprise survive à son dirigeant. Et c'est ce qui s'est produit.
C'est ce que vous dites en page 31. Et dans l'état actuel de l'équilibre instable des pouvoirs, l'intérêt général l'emporte le plus souvent, au moins dans l'opinion.
Oui.
Alors, nous avons déjà vu deux de vos principes. Enfin, en tout cas, vous nous avons légèrement effleuré la loyauté et la confiance. Je vous propose, après une pause, que nous revenions sur ces 10 principes à l'usage du dirigeant et de son entourage.
Avec
Merci.
Plaisir.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Académie vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Jean-Pierre Baudouin, nous sommes toujours en réflexion à l'issue de la sortie de votre remarquable ouvrage « Le dirigeant à l'épreuve de l'opinion », 10 principes de communication à l'usage de ceux qui nous dirigent et de leur entourage paru chez Personne, très, très récemment d'ailleurs. Et nous avons dans cette première partie déjà abordé vos 10 principes de communication que vous avancez dans votre parution. Alors, ces 10 principes, en synthèse, on peut les donner très rapidement: la confiance, la responsabilité, l'autorité, l'engagement, le respect, l'humilité, la confidentialité, la communication, la transparence et la loyauté. Et voilà donc un menu copieux. Dans quel ordre vous les mettez? Est-ce que c'est l'ordre... D'abord, y a-t-il un ordre ou pas?
Alors,
non, c'est tout à la fois.
C'est pas complètement un ordre aléatoire. On aurait pu les mettre dans un autre ordre. On peut entrer par le principe qu'on veut. Enfin, la lecture n'est pas empêchée au prétexte qu'on commencerait par le principe numéro 7 ou par le principe numéro 4. Hein. Donc on peut entrer
par. Il n'y a
pas
de hiérarchie, c'est pas parce que.
Non. Il n'y a pas de hiérarchie. Pour autant, alors c'est ma logique. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut pour quelqu'un d'autre que moi? Je n'en sais vraiment rien, mais c'est ma logique. C'est vrai que pour moi, la logique, la confiance est première. Et on l'a dit il y a un instant.
Et pourquoi dites-vous le centre du monde est ailleurs?
Parce que il faut comprendre que la confiance, alors ça, c'est pas de moi, c'est très vieux, ça ne se décrète pas, ça se gagne. Et que celui qui le gagne, il est en dehors de votre monde. Et si vous vous considérez comme le centre du monde, vous allez avoir du mal à comprendre comment celui dont vous avez besoin de la confiance vous l'octroie ou pas, à partir de quel point de vue, à partir de quel système de valeurs, à partir de quel contexte de vie, il va décider que vous méritez ou non la confiance. Donc il faut se mettre à la place de l'autre, donc considérer que l'autre est le centre du monde et pas soi-même. C'est quelquefois un exercice un peu difficile pour un dirigeant.
C'est un exercice d'humilité.
Mais c'est indispensable.
Voilà. L'humilité, alors, d'accord. C'est le
principe 6.
Tout dirigeant est un fusible régénérable.
Voilà.
Ça, c'est un principe d'humilité.
Voilà. Il faut bien comprendre. Alors ça, c'est le sixième de ces principes, encore une fois, sans ordre hiérarchique entre eux. Mais on observe aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, pas forcément dans d'autres contextes. Mais nos sociétés occidentales sont extrêmement attentives à la capacité du dirigeant à reconnaître ses erreurs et à présenter des excuses. Et plus le pouvoir est grand, plus la capacité à présenter des excuses en reconnaissant des erreurs doit être grande.
Alors, est-ce que ça, c'est pas plutôt un modèle américain?
Oui.
Plutôt qu'un modèle européen? Est-ce
oui.
que la culture européenne intègre aussi, enfin du moins du monde autre qu'américain, intègre aussi cette approche?
De façon croissante.
De façon croissante.
De façon croissante. Vous savez, un dirigeant fait une erreur. Bon, une erreur, ça peut se reconnaître et s'excuser. S'il n'est pas en mesure, ou s'il ne peut pas, pour diverses raisons, y compris éventuellement judiciaires, reconnaître qu'il a commis une erreur, l'opinion va considérer qu'il commet une faute. Une faute, éventuellement, ça se pardonne. Mais si, qui plus est, le dirigeant ne reconnaît pas qu'il a commis une faute, éventuellement pour les mêmes raisons judiciaires, mais pire encore, cherche à s'en défausser sur plus faible que lui,
oui,
alors à ce moment-là, il commet une offense. Et une offense, l'opinion va vous la faire expier. Et expier éventuellement pendant la durée d'une génération. C'est-à-dire qu'il se peut que pendant 25 ans, l'opinion qui était politiquement consciente au moment des faits vous colle l'étiquette de celui qui a commis l'offense, non seulement de ne pas corriger son erreur, non seulement de ne pas reconnaître sa faute, mais en plus de vouloir s'en défausser. Et ça, c'est vraiment le degré de l'offense et de l'expiation.
Mais alors, si on se présente sur le côté de la symétrie, est-ce que la gratitude, elle aussi peut être en sens inverse ? Être pendant des années collé à votre crédit, ou est-ce que la gratitude, elle, enfin, que vous avez fait de bien par rapport au jugement de l'opinion s'oublie beaucoup plus vite que ce que vous avez fait de mal?
La moindre des choses est qu'un dirigeant fasse bien. Il est inacceptable qu'il fasse mal. Donc naturellement, on se souvient davantage de ce qu'il fait mal que de ce qu'il a fait bien, puisque le bien qu'il fait est la moindre des choses. Donc ne pas attendre de gratitude. Le souvenir assorti de gratitude peut exister quand le dirigeant, au-delà de sa qualité de dirigeant, montre des qualités morales qui font de lui, éventuellement sur d'autres terrains, un leader d'opinion. Je vais prendre un exemple à nouveau américain.
Tout à fait intéressant.
Bill Gates a été un excellent dirigeant d'entreprise. Je veux dire, on ne construit pas l'entreprise qu'il a construite si on n'est pas un bon dirigeant d'entreprise. Très bien. Bon. Pour autant, il a été un dirigeant d'entreprise contesté dans certaines de ses pratiques comme dirigeant. Eh bien, aujourd'hui, Bill et Melinda Gates, avec leur fondation, sont en train d'exister comme leader d'opinion, comme personne à dimension morale. Et je pense que on se souviendra longtemps, bien sûr, de Bill Gates, dont le nom est associé à Microsoft de façon indélébile. Mais pour autant, la gratitude sera davantage associée à ce qu'il aura fait en dehors du champ de son entreprise.
Cela étant, c'est plus visible dans cet exemple que pour le petit dirigeant du comité d'exécutif du fin fond du centre de la France qui contribue au développement des associations caritatives du coin. Mais enfin, c'est un petit peu.
Mais ça peut être aussi important.
C'est tout aussi important.
Quel est le périmètre dont on parle? Et le périmètre de la collectivité locale, éventuellement modeste, est aussi important que le
symbole,
périmètre
d'ailleurs.
Planétaire.
Tout à fait, en termes de
symbole. Absolument,
de
tout à fait.
Alors voilà, mais écoutez, je crois que vous avez particulièrement bien illustré ces deux premières commandements. Parler de l'autorité.
Principe plutôt que commandement.
Je vais
éviter de faire Moïse descendant du Sinaï. Quand même.
Voilà,
c'est
sans doute pour
c'est
cela.
C'est très dangereux de se prendre pour Moïse, vous savez.
Oui, c'est sûr. Donc, vous parlez aussi de l'autorité. Alors, est-ce que c'est indissociable du métier de dirigeant?
Bien sûr, bien sûr.
Sans autorité, il n'y a pas de dirigeant.
Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, la caractéristique aujourd'hui, c'est que l'opinion reconnaît l'autorité d'un dirigeant à deux conditions. Sa compétence et la démonstration de son sens de la responsabilité. Encore une fois, l'opinion juge. Et l'opinion se considère compétente pour juger et pour juger de la compétence du dirigeant. Un dirigeant qu'elle considère incompétent va rapidement ne plus rien pouvoir faire. Et par ailleurs, il faut qu'il ait le sens de la responsabilité. Donc il faut qu'il ne fasse pas n'importe quoi, et notamment s'il commet une erreur, retour au principe précédent qu'il
admet. Il n'est pas absolument certain que le droit du travail soit tout à fait dans cette même logique de l'opinion.
Ah,
c'est un autre débat peut-être.
Ah, mais
que
c'est un débat qui existe aussi dans ce champ-là, dans la mesure où on voit bien que les systèmes de valeurs suivant lesquels l'opinion juge s'écartent de plus en plus des principes du droit.
Absolument, de très près. Alors l'engagement, le respect, je ne sais pas si vous avez l'engagement, vous dites, du processus autant que des résultats.
Oui, alors...
Ça, c'est important aussi.
Oui, absolument. L'opinion a besoin de voir comment les décisions sont prises, d'y être associé, d'en être, si je puis dire. Donc d'être entendu, d'avoir débattu, etc. Plus nécessairement, comme c'était le cas pendant les quelques décennies précédentes, en vue d'établir un consensus. Éventuellement en vue de constater un dissensus, mais au moins en ayant débattu, d'une façon méthodique, organisée, et en montrant au reste de la société qu'on a bien écouté les parties prenantes à une décision quelle qu'elle soit.
Le respect, la justification est un aveu. L'humilité, nous en avons parlé tout à l'heure, tout dirigeant est un fusible, on y reviendra dans quelques instants. Le respect, un mot sur le respect.
Oui,
la justification est un aveu.
Oui, on entend souvent, et il faut évidemment s'en garder, on entend souvent un dirigeant mis en cause chercher à se justifier devant l'opinion. C'est un piège. Alors, c'est d'autant plus un piège, me semble-t-il, que souvent, pas toujours, mais quand même assez souvent, la voix qui s'élève pour mettre en cause un dirigeant sur un registre quelconque est une voix sous-tendue par une idéologie.
Ou un intérêt,
qui est un intérêt parfaitement décrit. Il ne faut évidemment pas tomber dans le piège d'avoir à se justifier. Si on a besoin de se justifier, c'est qu'on n'est pas juste. Or, on ne sera respecté que si on a la capacité à expliquer sa décision, expliquer son projet, l'expliquer, mais non le justifier. Alors là, je voudrais juste faire un petit emprunt à Paul Ricoeur pendant 15 secondes, parce que c'est une de ces nuances qu'on entend aussi souvent dans la bouche d'un dirigeant. L'opinion est irrationnelle. L'opinion est irrationnelle. Bon. Et c'est vrai, l'opinion est irrationnelle. Mais l'opinion est très raisonnable. Et la différence que fait Paul Ricoeur entre le rationnel et le raisonnable, c'est que le rationnel, c'est ce qui est techniquement démontrable. Et c'est souvent le registre du dirigeant, très compétent dans son domaine, donc capable de démonstrations implacables. Mais la raison affective qui gouverne l'opinion peut se distinguer tout à fait de ce système rationnel. Je vais prendre un exemple simple, récent. Il y a quelque temps, l'opinion a été alertée sur le fait qu'on allait sortir de l'époque du pétrole. Il y aurait bientôt plus de pétrole, que le pétrole allait devenir trop cher, etc.
Peak oil. Bon,
voilà. Arrive le message, les biocarburants vont être capables de prendre une partie du relais par rapport au pétrole. Satisfaction généralisée, formidable. D'abord, c'est plus écologique. Ensuite, on fait pousser tous les ans la quantité d'énergie dont on a besoin, c'est renouvelable. Bref, merveilleux, formidable. Et ça, c'était au fond la démonstration rationnelle. Hein, oui. Voilà. Je sais faire des carburants avec des plantes, donc voilà. Bien. Quelqu'un s'avise de servir un argument raisonnable contraire. Ah, mais si on fait des carburants avec les plantes que vous mangez, vous n'aurez plus rien à manger.
Oui.
Bon.
Et à quel prix en plus ?
Ce qui est. Alors, c'est parfaitement raisonnable.
Tout à fait. C'est un argument.
Totalement irrationnel. Parce que de quelle surface agricole parlons-nous ? De quelle technique culturelle parlons-nous ? De quelle culture parlons-nous ? Etc., etc. Mais la population entend bien que si je prends pour faire de l'essence le blé qui sert à faire mon pain, c'est que je n'aurai plus de pain. Et ça, c'est raisonnable. Oui. C'est totalement irrationnel. Mais c'est parfaitement raisonnable. Et bien entendu, le deuxième discours prend mieux que le premier parce que le discours de la trouille fonctionne toujours mieux que le discours de l'espoir.
Et ça, le dirigeant doit toujours l'avoir en tête.
S'en souvenir, en tout cas.
En tout cas. Merci. Alors, vous parlez ensuite de confidentialité. Tout ce qui est confidentiel est destiné à devenir public. Nous l'avons dit. La communication, l'opinion veut des récits, pas de l'information. Alors, ça,
oui.
C'est important.
Alors, c'est le huitième principe. Alors, c'est une chose que l'on constate. Regardez comment les médias fonctionnent. Les médias sont de moins en moins, sauf les médias professionnels, techniques, qui sont là pour délivrer de l'information technique. Mais en dehors de ça, les médias, disons, d'information générale, ne sont justement plus dans le registre de l'information, mais dans le registre du récit. Alors le récit, il a été codifié par quelques grands auteurs dans ce domaine, les Jean-François Lyotard.
L'immédiateté.
Alors l'immédiateté, mais aussi un principe simple, pour qu'une histoire fonctionne, il faut une grande cause, une cause d'intérêt général, une superbe grande cause morale particulièrement. Et puis, une victime, un coupable et un héros. Et toute information est construite sur ce modèle. Rechercher dans l'information quelle est la grande cause, qui est la victime, qui est désigné comme coupable et quel est le héros qui va venir au secours de la victime. Et à quel rebondissement tout cela donne lieu, bien entendu.
Ça, c'est les séries américaines, oui.
Alors voilà. Mais l'information fonctionne comme ça. L'information fonctionne comme ça. Prenez un 20h à la télé, ouvrez le journal que vous achetez au kiosque, etc. On va vous servir du récit beaucoup plus que de l'information. Alors, il faut ajouter à ça, bien entendu, que la tendance avec la généralisation de l'Internet, qui est aujourd'hui évidemment une donnée, et qu'on ajoute aujourd'hui la conversation. On est passé de l'information brute à la communication, une information sous-tendue par un message, par une intention et qui donne un message dans un récit. Aujourd'hui, on ajoute l'étage de la conversation, c'est-à-dire que je reçois une histoire, je me mets sur Internet et j'en parle avec des gens qui sont comme moi. Dans l'horizontalité, si vous voulez.
Tout à fait. Hein. Et en plus, avec des espaces de temps qui ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a quelques décennies.
Qui a 10 ans.
Qui a simplement 10 ans.
L'Internet a 10 ans, c'est et ça. La généralisation de l'Internet est actuelle.
D'accord.
Oui, absolument.
Alors, la transparence,
oui.
Le silence, j'ai bien aimé cette approche, résultat d'une bonne communication.
Oui.
Donc,
alors,
parfois, le pire,
voilà.
C'est... Ça peut être autre chose, oui, que le silence.
Alors, pourquoi le silence ? D'abord parce que nous sommes dans un monde de bruit, pour toutes les raisons qu'on disait à l'instant sur l'universalité de la capacité à prendre la parole et à se faire entendre dans l'espace public. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'entreprises, d'institutions, de dirigeants avoir recours aux services de gens comme nous pour maintenir un niveau de silence. Qu'est-ce que c'est le silence ? C'est le contraire du vide. Le vide, c'est comme le bruit. Dans le bruit, on ne s'entend pas, parce qu'on ne s'entend plus. Dans le vide, rien ne passe, donc on ne s'entend pas non plus. Le silence, c'est le niveau de bruit qui permet que l'on s'entende.
C'est très
donc,
heureux
il faut moi. Arriver à maintenir ce niveau qui fait que vous pouvez parler avec les gens, vous faire constater comme parlant, parce que c'est important de voir que vous communiquez, mais en vous comprenant et s'entendre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire... Entendre que l'autre parle et s'entendre, c'est-à-dire s'accorder dans le sens, dans le double sens du terme. Donc ça, c'est cette vision du silence. Une bonne communication doit maintenir le niveau de silence qui permet que l'on s'entende. Bien. Alors la transparence dans tout ça. Bien. La transparence, c'est une sorte de mythe, de revendication universelle dont il va falloir un jour qu'on comprenne que c'est un mythe nuisible.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est-à-dire que d'une part, la transparence ne sert à rien. Si je vous voyais en transparence, ça ne me renseignerait pas sur votre personnalité. Or, on a besoin des aspérités, de l'éclairage sur un volume pour comprendre ce qui on a en face de soi. Donc, ce que l'opinion demande, ce n'est pas de la transparence, c'est de la clarté. La clarté d'un éclairage qui va montrer les reliefs, qui va montrer les creux en même temps que les pics, bien sûr. Mais le relief, c'est ça. Et la clarté, c'est l'intelligibilité. La transparence est inintelligible au plus grand nombre. Quand vous faites de la transparence financière, vous produisez des kilos de données qui sont incompréhensibles pour la très grande majorité de la population et difficilement interprétables pour ceux qui sont capables de la lire. La clarté, c'est produire de l'intelligibilité pour chacun. C'est faire en sorte que, dans ce que vous communiquez, chacun trouve ce qui lui permet de comprendre qui vous êtes, éventuellement de vous critiquer, mais en connaissance de cause.
Donc rien n'est plus stupide que l'expression qui consiste à dire « moi je risque rien parce que je suis transparent ».
Mais c'est un abus de langage, je pense. Je ne suis pas sûr que ce soit stupide, parce que c'est le mot qui est utilisé couramment.
Tout à fait, oui, c'est ça.
Mais,
c'est un amalgame.
Voilà. Hein. Mais je pense que la réalité, c'est le besoin de clarté, de produire de l'intelligibilité. Vous pouvez... totalement écraser n'importe qui sous votre transparence, parce que vous allez le noyer dans une masse de données.
La communication tue la communication, c'est bien connu, l'excès surtout.
Voilà.
Écoutez, en tout cas, vous êtes très clair. C'est
merci,
déjà une très
merci,
bonne chose.
Merci.
Alors, nous arrivons maintenant vers notre conclusion. Et pour ouvrir ce champ de notre conclusion, je voudrais nous renvoyer à la magnifique couverture de votre ouvrage, qui est donc une reproduction d'une œuvre d'Alexandre Louis Leloir, La lutte de Jacob et l'ange, et qui est donc un extrait, qui exprime un extrait de la Genèse en disant les choses ainsi, tu as été fort contre Dieu et sur les hommes, tu l'emporteras. Cette parole est dite par l'ange à Jacob après une nuit de lutte corps à corps. Le messager de Dieu a ainsi mis à l'épreuve celui qui va devenir le chef d'une nation dont ses 12 fils seront à l'origine. Le dirigeant est aujourd'hui, toute proportion gardée, parfois dans une situation comparable dans sa rencontre avec l'opinion. Elle met à l'épreuve sa détermination, sa persévérance, la justesse de son projet. Celui que cette lutte ne détruit pas peut y gagner en force, fût-ce au prix d'un boitement. qui serait là pour lui rappeler la relativité de son pouvoir. Je crois que ceci est absolument magnifique et résume parfaitement ce que vous venez de nous commenter. On peut dire peut-être que c'est une façon, mais je vous dis ça sous forme de clin d'œil, que c'est une manière autre de rappeler qu'un dirigeant, avant d'être un seigneur, il devrait être et rester un chevalier pour éviter qu'il ne redevienne un errant. Alors, face à l'opinion, être dirigeant chevalier, sans peur et sans reproche, transparent et courageux, est-ce que c'est un élément de réponse ?
Oui, parce que c'est être serviteur.
D'accord. Et vous terminez sur ce magnifique mot, servir.
J'espère.
D'accord. En tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous venez de développer.
Merci à vous.
Votre ouvrage, je le rappelle, est paru chez Personne, Village Mondial. Le dirigeant à l'épreuve de l'opinion, 10 principes de communication à l'usage de ceux qui nous dirigent et de leur entourage. Merci pour tout. Vous avez brillamment réussi, vous, l'épreuve de l'audition. Encore merci et à bientôt, j'espère, sur nos antennes.
Merci à vous.
Merci à vous.